Retrouvons notre évêque, Mgr Marc Caillet, en ce 4 février. Nous sommes avec Violaine Ricourt-Dumas et nous saluons les auditeurs de Radio La Pourdiratia et de Radio Présence Lourdes-Pyrénées. Bonjour Mgr Caillet.
Bonjour Egounon.
Bonjour Violaine.
Bonjour à tous.
Alors aujourd'hui, nous allons parler dans un premier temps de l'année sainte, dans un second temps de la transformation pastorale et missionnaire, et puis la troisième partie sera consacrée aux événements diocésains. Alors, Mgr Caillet, ça y est, on est dans l'année jubilaire, dans l'année sainte.
Voilà, on a commencé cette année sainte magnifique. D'abord, nous avons ouvert l'année sainte dans le diocèse, comme le pape nous y invitait, le dimanche 29 décembre. On s'attendait à ce qu'il n'y ait pas grand monde après Noël, pendant le temps des vacances. Et puis, en fait, nos trois cathédrales étaient bondées de prêtres et de fidèles pour entrer dans cette année jubilaire. Donc, je pense que ça veut dire qu'il y a une véritable attente.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un jubilé ou à quoi nous sommes appelés durant cette année ?
C'est intéressant parce que le mot jubilé, on ne sait pas toujours d'où il vient. Il vient d'un mot hébreu qui est yobel, qui signifie corne de bélier. Ça signifie sans doute que dans l'Ancien Testament, comme nous le lisons dans le livre du Lévitique au chapitre 25, il y avait des années dites jubilaires tous les 50 ans. 7 fois 7, 49, le chiffre 7 est un chiffre parfait, multiplié par lui-même, c'est magnifique. Et donc la 40e année, pour la fête du Yom Kippour, qui existe toujours en Israël aujourd'hui, qui est la fête du Grand Pardon, on sonnait de la corne de bélier pour proclamer une année jubilaire qui aurait lieu la 50e année, où on était appelé à ne pas travailler, c'est une année sabbatique. On reconnaissait ainsi que Dieu est le seul maître de la création, donc on se nourrissait des récoltes des années passées, et cette année était destinée à une sorte de remise à niveau à travers ce que l'on appelle la remise des dettes. Et évidemment que l'Église comprendra beaucoup plus tard lorsqu'elle instituera dans cette grande tradition biblique des années jubilaires tous les 25 ans depuis Boniface VIII en 1300. Eh bien, il s'agit donc de cette remise des dettes, cette demande de réconciliation avec Dieu qui nécessite une conversion mais qui aussi s'ouvre à la miséricorde du Seigneur qui épargne son peuple. Et puis, de remise des dettes, des offenses de nos frères. Hein, comme vous savez, dans le Notre Père, selon la leçon de l'Évangile de saint Matthieu, Jésus nous fait dire « Remets-nous nos dettes comme nous les remettons à nos débiteurs », c'est-à-dire « Remets-nous, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Vous voyez, c'est à la fois un temps de réconciliation avec Dieu qui vient de sa miséricorde, dont nous allons recevoir les grâces abondantes, et de là, eh bien, nous sommes invités à nous réconcilier les uns avec les autres pendant cette année jubilaire. Je dis corne de bélier parce que vous vous rappelez que dans la Genèse, Dieu demande à Abraham, après lui avoir donné ce fils de la promesse, ce fils en qui toute sa descendance serait bénie et serait plus nombreuse que les grains de sable sur le bord du rivage ou que les étoiles du ciel, eh bien, lui demande de sacrifier son fils. Et au moment où, dans la foi et l'obéissance, parce qu'il fait confiance en Dieu, qui sait ne pas être un monstre, l'ange arrête son bras et il voit un bélier dont les cornes sont prises dans un buisson. Alors il prend le bélier, il l'offre à la place de son fils. Donc Dieu a épargné son fils. En Isaac, Dieu nous épargne et il a offert en sacrifice son propre fils, dont le bélier n'était que la figure dans la Genèse.
Alors, dans notre diocèse, vous allez instituer des lieux jubilaires dans lesquels on pourra faire des pèlerinages. Il n'y a pas de porte sainte dans le diocèse. La porte sainte, elle n'est qu'à Rome. Mais quels vont être les lieux jubilaires ici chez nous ?
Alors voilà, ce qui est important avant de définir ces lieux jubilaires, c'est de se rappeler qu'une année jubilaire, une année sainte, une année de grâce, c'est une année pour obtenir la miséricorde du Seigneur. Donc, on sait bien que le sacrement par excellence qui va être remis au centre de la vie chrétienne, comme le demande de Saint-Père dans sa bulle d'indiction, c'est le sacrement de pénitence et de réconciliation. C'est là que nous puisons aux eaux vives du salut, hein, comme dit Isaïe. C'est là que nous recevons ce don de la miséricorde, le pardon que le Seigneur nous accorde. Mais on va aussi obtenir l'indulgence qui est tout à fait liée, de manière, j'allais dire, intrinsèque, à ces années jubilaires comme Paul VI nous l'avait rappelé un petit peu avant l'année 75, en redéfinissant ce que sont les indulgences ou l'indulgence plénière dans la vie chrétienne. Et puis tous les papes, jusqu'à François, dans sa bulle d'indiction « L'espérance ne déçoit pas hein, » pour cette année jubilaire 2025, nous rappellent que l'indulgence, c'est le dernier mot de la miséricorde du Seigneur. Lorsque nous sommes pardonnés de nos péchés par le sacrement de pénitence, nous savons que notre péché laisse des traces, non seulement dans le monde que nous avons troublé ou blessé par le péché, mais aussi dans notre âme, hein, à travers cet attachement au malsain, aux créatures, comme dit le catéchisme de l'Église catholique, rappelé par le pape François, qui s'inscrit en nous, même à cause du péché véniel. Eh bien, l'indulgence, c'est la remise de cette peine temporelle qui est due à nos péchés, dûment pardonnée par le sacrement de pénitence, alors que nous essayons, nous, de réparer, mais nous ne pourrons jamais réparer complètement tant nous sommes faibles, et Dieu, dans son infinie miséricorde, eh bien, permet au pape, le successeur de Pierre, qui a reçu le pouvoir de lier, de délier, de puiser dans ce trésor de l'Église constitué par les mérites de la Passion de Jésus, de la Sainte Vierge et des saints, pour remettre les peines temporelles dues au péché, c'est-à-dire tout ce qui est resté marqué, hein, ces traces qui sont restées imprimées dans le monde et dans notre âme, et en particulier pour les âmes du purgatoire qui, elles, ne peuvent plus mériter par elles-mêmes, donc qui attendent que nous obtenions une indulgence plénière pour que le Seigneur efface les peines et les fasse entrer définitivement dans sa communion éternelle.
Alors comment obtenir cette indulgence ?
Alors voilà, donc d'abord, à travers cette année, le pape ouvre 4 portes saintes à Rome. Hein, c'est important, Rome reste quand même le cœur de la catholicité, c'est là que se trouvent les tombeaux de Saint-Pierre et de Saint-Paul, et donc le pape nous invite à aller à Rome, il y aura tout au long de l'année jubilaire des temps forts pour les différentes catégories de fidèles, pourrait-on dire, pour gagner cette indulgence à Rome en franchissant ces portes saintes dans les grandes basiliques majeures, Saint-Pierre du Vatican, Saint-Paul hors les murs, Sainte-Marie majeure, Saint-Jean de Latran. Il n'y aura pas de portes saintes dans les autres lieux jubilaires, mais le pape propose que les évêques désignent des lieux jubilaires pour tous ceux qui ne pourront pas aller à Rome. Et de telle sorte que nous puissions faire des pèlerinages en ces lieux jubilaires et obtenir, aux conditions prévues par l'Église, qui ont été fixées par la pénitencerie apostolique, eh bien, l'indulgence du jubilé. Alors les 6 lieux jubilaires que j'ai désignés, les 3 cathédrales, Sainte-Marie de Bayonne, Notre-Dame de l'Assomption Lescar, Sainte-Marie de Laurent, et 3 sanctuaires ou chapelles, réparti dans le diocèse, donc le sanctuaire Notre-Dame de Bétharram, le sanctuaire Notre-Dame de Sarens et la chapelle Notre-Dame du Refuge. Aux conditions prévues, que j'ai rappelées dans un livret qui va être très prochainement publié, on peut obtenir l'indulgence en visitant ces lieux jubilaires, après avoir fait, si on le peut, un petit pèlerinage à pied avec des itinéraires que chaque lieu a indiqués.
Vous avez parlé de la dimension spirituelle du jubilé, mais il y a aussi une dimension sociale.
Bien sûr qu'il y a une dimension sociale, parce que si je parle de remise de dettes, c'est évidemment d'abord les dettes intérieures, hein, comme le précise le pape François, mais ce sont aussi les dettes vis-à-vis les dettes sociales. Hein, et les papes demandent toujours, à l'occasion de ces grandes années jubilaires, que les pays riches pratiquent la remise des dettes envers les pays pauvres, qui la plupart du temps ne sont pas solvables. Hein. Et aussi dans nos relations sociales, mais c'est l'occasion aussi de remettre un peu des dettes et d'être à l'initiative de démarches de réconciliation. Et je crois que ça, c'est très important. J'ai essayé de souligner cela aussi. Selon la parole de Jésus dans l'Évangile, quand tu vas déposer ton offrande à l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis dépose ton offrande sur l'autel.
Alors le pape, dans sa bulle d'indiction, parle de 3 signes d'espérance, la paix, la promotion de la vie et l'aide aux personnes en détresse. Comment est-ce qu'on va vivre ces 3 signes alors dans le diocèse ?
Le premier signe, celui de la paix, on va prier pour la paix comme dans le monde, et ça je pense que c'est une intention de prière que nous portons quotidiennement, surtout lorsque la paix est concrètement menacée, hein, dans notre monde d'aujourd'hui, qui est bien déchiré en bien des endroits de la planète. Mais nous allons aussi essayer de vivre la paix dans nos familles, dans nos communautés paroissiales, dans notre diocèse, dans l'Église universelle. C'est en ce sens que j'appelais à ces démarches de réconciliation pour surmonter tous les germes de division qui existent dans toute communauté humaine, y compris chrétienne, parce que nous sommes d'abord des hommes. Ensuite, le deuxième signe que le pape propose, c'est l'ouverture à la vie. Il n'est de secret pour personne que nous vivons une période de profonde décroissance au niveau de la natalité, surtout dans nos pays de vieille chrétienté, qui est un signe certainement, comme le dit le Saint-Père, de désespérance, hein, de manque d'espérance, de manque de confiance dans la vie, hein, dont Dieu est l'auteur, et si Dieu donne la vie, ben, il ne le donne pas pour le mal et pour le malheur, mais toujours pour le bonheur. Donc il y a un effort aussi d'ouverture à la vie que le pape propose comme signe d'espérance, et nous, de manière très modeste, nous organiserons un colloque qui aura lieu à Notre-Dame du Bout du Pont, que j'ai érigé comme sanctuaire de la mère et de l'enfant l'an dernier, dans le quartier du 14 juillet de Pau, près de Jurançon, et on organisera un colloque pour célébrer le 30e anniversaire de la grande encyclique du pape Jean-Paul II, en 1995 donc, 25 mars, qui est Evangelium Vitae, l'évangile de la vie. Hein, donc ce colloque aura lieu le samedi 29 mars, le plus près possible de cet anniversaire, au cours duquel interviendront Monsieur Lafitte, qui est un enfant du pays, et qui a été au Conseil pontifical pour la famille et à l'Académie pontificale pour la vie, donc qui nous parlera de cette encyclique, de son importance et de ses répercussions dans la vie de l'Église et du monde. Ensuite, nous aurons le délégué général de Alliance Vita, Tugdual Derville, qui parlera aussi de la dignité de la vie humaine, de toute vie humaine qui est sacrée. Ensuite, nous aurons à deux voix le président de la Fondation Le Jeune et Aude Dugas, qui est la postulatrice de la cause de Jérôme Le Jeune, ce grand savant généticien qui s'est battu pour la dignité de la vie humaine depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle, et qui a été déclaré vénérable par le pape François. Et puis après, une table ronde qui se conclura par la célébration de la messe.
Enfin, le troisième signe.
Alors donc, les responsables des pastorales qui prennent soin de toutes les situations de détresse possibles imaginables, que ce soit les détenus, que ce soit les malades ou personnes handicapées, que ce soit les migrants, que ce soit les personnes âgées, les jeunes, et tous ceux qui sont en situation de précarité, ont été rassemblés par le vicaire général pour porter des initiatives et proposer des initiatives en direction de ces personnes pour manifester précisément notre souci, notre sollicitude de toutes ces personnes en situation de détresse.
Le jubilé se termine quand, Monseigneur ?
Le jubilé se terminera dans les diocèses le dimanche de la Sainte Famille, et donc fin décembre. Et en tout cas, pour l'Église universelle, ce sera le 6 janvier pour la fête de l'Épiphanie.
Nous vous retrouvons dans quelques instants pour parler de la transformation pastorale et missionnaire.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Monseigneur Ayer, nous continuons avec vous cette émission. Un des chantiers dans notre diocèse, cette année également, outre l'année sainte bien sûr, c'est la transformation pastorale et missionnaire. Ça fait bientôt 2 ans maintenant qu'un groupe travaille sur ce sujet, qui est développé aussi, je crois, dans de nombreux diocèses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi s'agit-il, cette transformation pastorale et missionnaire ?
Alors donc ça, c'est une expression qui vient du pape François, dans son une exhortation apostolique Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, qui date déjà de 2013, donc il y a quasiment 12 ans, au début de son pontificat, qui reprend finalement un élan missionnaire qui a commencé au Concile Vatican II, dont c'était l'objectif principal, d'après ce que nous disait le pape Saint Paul VI, qui a été l'acteur et celui qui a conclu ce grand Concile Vatican II, et en particulier dont il a donné le programme dans une exhortation apostolique, Evangelii Nuntiandi, l'évangélisation du monde moderne, qui date de 1975, au terme de l'année sainte, d'il y a 50 ans, et donc nous célébrons le 50e anniversaire, et qui, comme je l'ai déjà dit, est l'exhortation programme de tout cet élan missionnaire dont ont été témoins dans leur magistère les papes successifs. Depuis Paul VI, on pense à la nouvelle évangélisation, promue par le pape Saint Jean-Paul II, le pape Benoît qui marche sur les pas de son prédécesseur et qui disait précisément « Il faut absolument aujourd'hui que nous passions d'une pastorale de la conservation, le pape François ajoutera de la maintenance, à une pastorale de l'évangélisation. Et le pape François, reprenant cette phrase de Benoît XVI, dira « Il faut passer d'une pastorale de la conservation à une pastorale résolument missionnaire ». Donc le grand souci de l'Église depuis le Concile Vatican II, c'est que le monde s'éloigne de l'Évangile, s'éloigne de l'Église qui doit être porteur, porteuse de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui, pour ce qui nous concerne, et donc de raviver cet élan missionnaire qui est la ferveur apostolique de la Pentecôte, dans la puissance évidemment de l'Esprit-Saint. Alors, nous avons essayé de, dans le diocèse, bien sûr que nous avons pris acte de cette transformation pastorale depuis longtemps, vous rappelez ma première lettre pastorale en 2010, « La charité du Christ nous presse, l'urgence de la mission », où je donnais déjà quelques orientations, tirées tout simplement des orientations du magistère. Nous avons mis en place une école de disciples missionnaires, qui est le parcours Cléophas, qui rassemble tous les deux ans une promotion de 30 à 40 fidèles envoyés par les curés des paroisses ou les services pour acquérir une plus grande conscience missionnaire et être des promoteurs d'initiatives missionnaires dans leur paroisse. Il y a le congrès mission qui a eu lieu cette année, mais depuis plusieurs années, beaucoup de fidèles participent au congrès mission, soit à Paris, soit dans les grandes métropoles. Il y a aussi les sessions de formation pasteur selon mon cœur, qui ont été suivies il y a quelques années par des prêtres du diocèse. Quantité d'initiatives qui ont lieu ici ou là, de toute façon, de manière souvent cachée. On est missionnaire comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir. Mais nous avons donc monté, depuis presque deux ans, un groupe de travail pour s'atteler à cette question de la transformation pastorale et missionnaire du diocèse, qui comprend des prêtres, qui comprend beaucoup plus de laïcs, de sensibilités différentes. Il y a ceux qui sont au service des pauvres, ceux qui travaillent au parcours Cléophas, ceux qui sont dans des services, la catéchèse, mais même la comptabilité, enfin bref. Et nous avons essayé pendant ces premiers mois de définir une vision, de définir un cap. C'est la première chose que j'ai exprimée dans la revue Notre Église, du mois de janvier, à la page 6, je pourrais en dire peut-être un mot tout à l'heure, et qui définit un cap, à charge maintenant à tous les acteurs de la mission, à commencer par les prêtres, mais aussi toutes les équipes d'animation paroissiale, les conseils pastoraux, les fidèles les plus engagés dans les paroisses, dans les communautés, dans les services, à se ressaisir de cette vision et déterminer des priorités pastorales à mettre en œuvre pour atteindre ce cap. Évidemment aussi, promouvoir des initiatives missionnaires qui permettront de mettre en œuvre ces priorités. Alors c'est le travail qui nous attend, qui va être un peu guidé par le groupe de transformation pastorale et missionnaire, mais qui appelle la collaboration et la contribution de tous.
Alors justement, vous avez informé les prêtres officiellement, puisqu'ils étaient tous rassemblés le 9 janvier dernier pour la journée des vœux aux prêtres traditionnels, qui s'est déroulée à Audox cette année. Donc c'est le groupe de transformation pastorale et missionnaire qui a animé la journée. Justement, concrètement, vous avez pu voir en œuvre cette transformation pastorale et missionnaire ?
Alors le but, ce n'était pas de faire une journée de travail. Il nous avait semblé que ça aurait été un peu rébarbatif. En plus, ça correspondait avec la journée traditionnelle des vœux au clergé. Le but, c'était finalement de rassembler les prêtres dans la fraternité. Voilà. On a baptisé cette journée la journée fraternelle des prêtres. Parce que je pense que la transformation pastorale, comme nous le dit souvent le pape François, est d'abord un acte de conversion. C'est pas un acte programmatique de manière logistique ou technique, même si on est obligé de passer par des techniques d'animation, des techniques d'évangélisation, etc. Mais c'est d'abord un acte d'Église, l'Église du Christ, qui est le corps du Christ. Donc on se rassemble sur notre foi commune au Christ, qui est le premier évangélisateur, qui avec l'Esprit-Saint est le protagoniste de la mission, et rassemblé dans la communion. Et dans la communion fraternelle. Donc il nous semblait très important d'abord de susciter au sein du diocèse. Je crois que c'est une chose dont les prêtres s'accordent chaque fois qu'ils se rassemblent, ils sont heureux de se rassembler dans la diversité de leur sensibilité ou de leur génération. Ils sont heureux de partager ces moments fraternels, bien souvent très gratuits. Et cette journée en a été vraiment, j'allais dire, l'expression et le signe, j'allais dire, emblématique. Le groupe de transformation avait justement préparé cette journée de telle sorte que on attire l'attention, évidemment, et c'est ce que j'ai fait en leur présentant mes vœux, dans un temps assez bref d'ailleurs, sur cette vision pour la transformation pastorale du diocèse, et puis des activités où on se retrouve, on se connaît, où les masques tombent, en particulier à travers une après-midi très ludique, où l'équipe avait organisé des jeux que nous accomplissions par équipe, deux équipes par deux équipes, pour être un peu en concurrence, et ça a donné beaucoup de joie, beaucoup de simplicité dans les rapports, beaucoup de spontanéité, de connaissances mutuelles aussi. Et puis on a terminé en effet sur un retour sur le congrès mission et qui s'est tenu à Navarinx au fin du mois de septembre, et avec le couple qui en avait été la cheville ouvrière, et puis d'ouvrir des perspectives, comment on va essayer de se former, comment on va s'approprier cette vision et comment on va petit à petit définir des priorités.
Alors, est-ce qu'on peut rentrer rapidement dans le détail de cette vision pour voir quelles sont les étapes qui nous attendent ?
Donc ça, c'est le fruit de ce travail du groupe, de ce groupe de travail. Mais en même temps, c'est très révélateur de ce que l'Église est et de ce qu'elle nous dit depuis plus de 50 ans. En gros, j'ai voulu exprimer cette vision en trois paragraphes, selon une structure tout à fait trinitaire. Il y a le Fils, le Père et l'Esprit-Saint, dans l'ordre de ces trois paragraphes, à partir d'une parole qui me semble très importante, qui m'a toujours beaucoup marqué, de saint Jean-Paul II, qui dit que l'Église est un mystère de communion missionnaire. Un mystère, l'Église mystère, c'est la grande découverte, si je puis dire, du Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, dans le premier chapitre, l'Église mystère. Quand on dit mystère, c'est le corps mystique du Christ, ça se réfère au Christ, l'Église est le corps du Christ. De communion, l'importance de l'unité, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que tous vous reconnaîtront pour mes disciples, et puis missionnaire dans la puissance de l'Esprit-Saint. Pour décliner ça, j'ai dit que l'Église, la paroisse, parce que l'Église est un mystère de communion missionnaire, doit être une communion concrète où l'on fait l'expérience de la rencontre avec le Christ ressuscité, en écoutant sa parole, en célébrant l'Eucharistie, et j'ajoute une communauté où l'on propose à tous un parcours d'initiation chrétienne, car il ne suffit pas de transmettre la foi, comme on le fait aux enfants du catéchisme, et qui arrivent à 8 ans sans avoir parfois jamais entendu parler de Jésus dans leur famille. Il ne suffit pas de préparer des parents à la va-vite pour le baptême de leurs petits-enfants. Il ne s'agit pas seulement de marier des gens qui veulent se marier à l'église, parce que c'est mieux qu'à la mairie, mais il faut accompagner la vie chrétienne jusqu'à une fois adulte. Donc il faut prévoir des étapes où chacun peut vérifier la vérité et la vitalité de sa foi. Ensuite, l'Église est une famille où on se reconnaît comme fils et filles d'un même Père, donc ça c'est le Père dans la Trinité, après le Fils, le Christ, et où on apprend à s'aimer les uns les autres comme des frères. Ça reste un apprentissage qui est un grand défi pour l'Église d'aujourd'hui et forcément aussi pour notre diocèse et toutes nos communautés, non seulement à s'aimer les uns les autres, mais à servir les plus pauvres, pour les intégrer dans cette famille. Et enfin, une communauté de disciples missionnaires, selon l'expression du pape François, où tous sont appelés, dans la puissance de l'Esprit-Saint, à participer à l'annonce de l'Évangile, cette annonce qui se fait d'abord par le témoignage de la vie, et ensuite par l'annonce explicite du message de l'Évangile, parce que l'Église existe pour évangéliser.
Nous vous retrouvons dans quelques instants, Mgr Hayé, pour parler de la vie du diocèse.
Présence à Pau, 96.
Ce mois-ci, Mgr Ayet, il y a eu beaucoup d'événements auxquels nous avons participé. Alors, on peut commencer déjà avec une rencontre des mouvements associations de fidèles et services. C'était le 7 janvier dernier à Pau, enfin à Lons plus précisément, où tous les mouvements du Béarn se sont retrouvés pour parler de cette future maison diocésaine de Pau. Comment s'est passée cette réunion et qu'est-ce qui en est ressorti ?
Voilà, donc ça a été un très beau moment. Il faut savoir bien sûr que cette rencontre du 7 janvier était précédée par bien des auditions diverses et variées, des usagers de l'ancien CDB, des fidèles d'une manière un peu générale. On a senti un petit peu les uns et les autres, à travers des réunions d'ailleurs qui avaient présenté le projet en tant que chantier de la restauration de cette résidence que les jésuites avaient gracieusement donné au diocèse déjà depuis 2018. Donc le but c'était, parce qu'il y a un kairos, il y a un temps de Dieu, et donc c'était le moment favorable, de rassembler tous les usagers potentiels de cette maison, et sans doute qu'il y en aura beaucoup d'autres, qui sont les fidèles de nos paroisses et de nos services, qui pourront fréquenter cette maison qui est la maison de tous, la maison du peuple de Dieu pourrait-on dire. Pas la maison du peuple, mais la maison du peuple de Dieu. C'était le moment donc de rassembler les mouvements, les associations de fidèles, les services, les prêtres aussi, du Béarn, qui sont davantage concernés évidemment par cette maison Saint-François-Xavier, qui sera la maison diocésaine, pourrait-on dire, mais pas que, pour Pau, l'agglomération paloise et finalement tout le Béarn. Le but c'était finalement d'écouter, de s'écouter. On avait pris comme procédé un petit peu ce qui s'est passé pendant le synode, comme vous vous en rappelez, ce qu'on a appelé d'ailleurs la conversation dans l'esprit. En gros, on a commencé par une petite lectio divina partagée, comme on le fait si souvent. On a pris le texte des béatitudes, et puis il y avait à peu près 80 personnes qui ont répondu à cette invitation. Et par groupe de 4-5, on partageait tout simplement sur l'écho de ces béatitudes, cet évangile dans notre vie. Donc c'était un petit moment tout à fait sympathique dans le brouhaha de cette salle. Et puis ensuite, l'animation était assurée par l'abbé Victor Gomez, vicaire épiscopal, curé d'Orthès, et on a commencé, parce que c'était ce qu'on avait envoyé dans la convocation un mois avant, par entendre, d'abord moi j'ai présenté très rapidement cette maison dans ses composantes principales, qui ne fait de j'allais dire, qui n'est un secret pour personne, puisque ça a été présenté dans les réunions sur les chantiers. Bon, ben voilà, les différents blocs qui composent cette maison, qui n'est pas un copier-coller du CDB. C'est aussi un lieu spirituel dans l'héritage des jésuites, avec une communauté religieuse, des chaumes de la grâce, en l'occurrence. C'est un foyer d'étudiants et d'étudiantes. C'est une maison des familles pour guérir les blessures de la famille, dans l'esprit de l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia du pape François sur l'évangile de la famille. Et puis c'est aussi un lieu qui est assez important pour qu'il y ait des locaux de rapport, que ce soit des appartements ou des cabinets paramédicaux qui aussi apporteront aussi des revenus pour le fonctionnement de la maison. Après, chaque représentant d'un mouvement, d'une association de fidèles ou d'un service était invité à dire, en toute vérité, en toute liberté, ses souhaits pour cette maison, pour la vie de cette maison, ses rêves même, mais pourquoi pas aussi ses craintes et ses regrets. Voyez, chacun devait être écouté, personne n'était interrompu. Chacun pouvait parler comme il l'entendait, dans un temps relativement bref, mais ça a quand même duré 3 heures, cette réunion. Et tout le monde a pu s'exprimer, et on s'est écouté, point barre. Ce qui est énorme, parce que c'est bien que quand on débat avec quelqu'un, pendant que l'autre parle, on est en train déjà de prévoir sa défense. Et donc, on n'écoute pas vraiment. Alors que là, on écoutait. Et j'ai senti d'ailleurs que ce procédé, et je crois qu'il a été très salué par les pères et mères du synode dernier à Rome, a permis d'apaiser l'atmosphère. On sentait qu'il y avait un climat apaisé. Ça n'a pas empêché certains de dire ce qu'ils pensaient, et même de manière... Mais bon. Et une fois que tout ça a été dit, Eh bien, moi, j'ai repris la parole en disant d'abord que j'étais heureux qu'on ait pu s'écouter, que chacun ait pu parler en vérité, même parfois des choses qui fâchent, parce que tout est recevable, et qu'à partir de là, une synthèse de cette rencontre serait envoyée, donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, à tous les mouvements, services et associations de fidèles qui ont participé à cette rencontre, qui étaient invités en tout cas. Et on a écouté les souhaits, que ce soit un lieu de rencontre, de connaissances mutuelles, dans nos différences, de voir comment, tout en étant différent, tout le monde peut trouver sa place, toutes les sensibilités peuvent être respectées, que chacun puisse se sentir chez soi dans les différentes activités, où on essaie de coordonner aussi les activités des uns et des autres. Et donc j'ai terminé en disant qu'on allait mettre maintenant, à partir de cette synthèse, de tout ce qui a été dit exactement par les uns et les autres, un conseil d'animation pastorale qui sera présidé par le vicaire général, auquel participera aussi un vicaire épiscopal qui est l'abbé Pierre Amburu, qui résidera dans la maison, et d'ailleurs qui assurera une messe quotidienne d'horaire, pour les fidèles qui le désireront, et qui mettra en œuvre tous les souhaits, qui sont déjà d'ailleurs matériellement pris en compte, puisque tout ça a été connu déjà par les auditions précédentes. Voilà. Donc, je trouve que cette soirée, a été très riche et précieuse pour l'avenir.
Et donc, la maison ouvrira l'année prochaine, début d'année prochaine.
Voilà. Je pense que les travaux ont commencé le 1er avril 2024. Donc, il faut sans doute au quatrième trimestre de 2025. Ça avance bien.
Le 19 janvier, vous avez institué un lecteur Paul Théry, un jeune séminariste de notre diocèse.
Oui, donc c'est une denrée rare aujourd'hui. Mais en tout cas, Paul, qui est en deuxième année de théologie au séminaire des 5 heures de Jésus et de Marie, donc a été institué lecteur. Donc ce sont les étapes qui précèdent maintenant l'acolytat d'abord, et puis ensuite le diaconat et le presbytérat, si Dieu le veut. Donc c'était à Orthès, puisqu'il est en insertion pastorale à Orthès, et c'était très très beau, même s'il faisait très froid dans cette église. Et nous avions la présence d'ailleurs de l'évêque d'un de nos séminaristes aussi, qui est junior, qui nous a confié ce séminariste pour sa formation, qui est l'évêque de Kouengé, à côté de Kinshasa, et qui lui a été membre de la Congrégation pour le culte divin, lorsque le cardinal Sarah était le préfet, et qui a été cérémoniaire du pape Benoît XVI et pendant 2 ans aussi du pape François avant d'être nommé évêque auxiliaire de Kinshasa puis évêque de Kouengé.
À Saint-Palais, le 12 janvier, vous avez ordonné 2 diacres en vue du sacerdoce pour la communauté des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram.
Oui, en plein milieu de ma grippe. Mais ceci dit, j'étais très heureux aussi, 2 jeunes Ivoiriens qui ont un parcours magnifique et que j'ai donc ordonné diacre pour Bétaram, en effet, dont un est en service pastoral à Saint-Palais, avec la petite communauté des Bétaramites, qui soutient le clergé local.
Donc c'est vous qui les ordonnez diacres, mais après ils seront ordonnés prêtres, pas forcément...
Voilà, ici. Ils sont ordonnés prêtres dans leur pays, et ils me font toujours la grâce, en tout cas, et l'honneur d'ordonner diacres ces jeunes Bétaramites qui, après une année passée à Bétaram pour la préparation de leurs vœux solennels qu'ils ont prononcés fin août, eh bien, ils sont en insertion, l'un chez nous, l'autre dans le diocèse de Saint-Sébastien, et ils seront ordonnés dans leur pays à la fin de cette année pastorale.
Alors, on a aussi eu encore une autre ordination de diacre, mais cette fois-ci, c'est un diacre permanent. Donc, un nouveau diacre permanent pour notre diocèse, c'est Stéphane Courteau, qui a été ordonné le 26 janvier à Cambo par vous-même.
Oui, donc ça a été aussi une très, très belle célébration. Donc, c'est un diacre qui est implanté dans cette paroisse Saint-Michel-Gallicoïts, Cambo, depuis quelques années. Et puis, il venait en vacances là depuis longtemps. Et qui a décidé de s'implanter ici avec son épouse, qui n'a pas complètement arrêté de travailler, mais qui travaille plus facilement en télétravail, qui arrive de la région parisienne, et qui appartient à la communauté de l'Emmanuel. Donc il a fait tout un prédiscernement à Paris, avec sa communauté de l'Emmanuel, pour le diaconat permanent, et il a fait toute sa formation avec nos propres candidats au diaconat, du diocèse, avec l'interprovince de Poitiers-Bordeaux. Et donc il est bien inséré, je l'ai aussi nommé, et ce sera sa mission officielle de diacre, responsable de la diaconie. Donc c'est une célébration qui était belle, parce qu'il y avait évidemment la paroisse qui était très représentée, et puis il y avait aussi la côté de l'Emmanuel qui était là pour l'entourer, d'ici et d'ailleurs. Il y avait Monsieur Christori, évêque de Chartres, qui a bien connu Stéphane parce qu'il était curé de la Trinité, et c'est à ce moment-là que d'ailleurs... Il a fait partie de ceux qui ont aidé Stéphane à entendre cet appel au diaconat permanent. Et donc c'était une très belle célébration de communion entre des réalités bien différentes, mais en tout cas avec un profond désir de Stéphane de s'insérer dans la paroisse du Pays Basque et puis dans le diocèse.
Nous avons également eu la journée des fiancés, alors ça c'était la veille, à Pau. Vous avez eu beaucoup de couples qui sont venus pour cette journée des fiancés. C'est la deuxième édition, je crois.
Deuxième édition, toujours à l'Immaculée Conception, qui nous offre une infrastructure tout à fait adaptée à Pau. Oui, il y avait plus de 70 couples de fiancés envoyés par leur curé. J'étais très frappé, d'ailleurs, je veux le souligner ici, que certaines paroisses rurales ont pu envoyer des fiancés. Je voyais qu'il y avait six couples de fiancés des paroisses de Galatie. Il y avait 7 couples de fiancés de la paroisse d'Arzac, hein, au nord du diocèse. Donc c'est dire que ce n'était pas seulement la Côte Basque qui a aussi beaucoup envoyé de fidèles, de fiancés, même si c'était à Pau. À Pau, il y en avait un tout petit peu moins parce qu'ils n'avaient pas encore commencé complètement les inscriptions des fiancés, donc c'était peut-être un peu tôt dans l'année. Mais le but, c'était de lancer un peu la préparation au mariage dans les paroisses, qui ne fait pas double emploi d'ailleurs, hein. Une journée diocésaine autour de l'évêque, organisée et animée de A jusqu'à Z par ces couples de la pastorale familiale, qui sont maintenant rompus à cet exercice, et donc qui fondent en tout cas mon admiration, parce que cette journée se passe comme ça se passe d'une manière très souple, coulante, et je crois que le but de cette journée, c'est vraiment dans le sens de la transformation pastorale, puisque c'est aussi un des fleurons de cette transformation pastorale dans le diocèse, de manière très kérigmatique. Le but, c'est pas de bassiner ces fiancés qui vont être confrontés aux exigences du mariage, aux piliers du mariage anthropologique, hein, qui demandent un engagement moral assez exigeant. Mais c'est une annonce de la bonne nouvelle, l'évangile c'est la bonne nouvelle, du mariage, à travers des couples témoins, et puis il y a des couples parrains qui accompagnent une petite équipe de fiancés pendant toute la journée, lesquels ils relisent tout ça, ils peuvent poser des questions, il y a une table ronde à laquelle je participe, avec un couple et un autre prêtre, pour répondre à toutes les questions, il n'y a pas de questions taboues, et j'ai été très frappé de voir que beaucoup, beaucoup des questions de ces fiancés portaient sur la foi. Comment est-ce qu'on fait pour retrouver la foi? Comment est-ce qu'on fait pour avoir la foi? Comment est-ce qu'on fait pour faire une prière? Etc. Donc ils avaient été marqués par ces couples témoins qui disaient comment leur rencontre avec Jésus et leur foi avaient irrigué leur vie conjugale et familiale et parfois permis de surmonter bien des crises qui sont évidemment toujours au rendez-vous de la vie conjugale et familiale.
Le 2 février, vous avez célébré au monastère des Bénédictines.
Le 1er février.
Alors le 1er février, journée de la vie consacrée, donc le samedi 1er février, accueilli toujours magnifiquement par les moines bénédictins et les moniales bénédictines, donc au Saint-Scholastique-d'Urt, nous avons rassemblé 70 à 80 représentants de nos communautés religieuses, de nos consacrés. Donc une journée qui a été très belle, hein, avec une très belle conférence de l'abbé Pierre Aramburu, qui est le délégué diocésain de la vie consacrée, sur le Sacré-Cœur, à partir donc de l'encyclique du pape François Dilexit Nos, hein, il nous a aimés. Et c'est l'occasion pour moi de leur donner aussi des nouvelles. Très belle journée de prière, journée fraternelle, qui anticipait la joie de la vie consacrée qui avait lieu dans les paroisses le dimanche 2 février.
On termine cette émission, Monseigneur, avec la nomination de 2 femmes au Conseil épiscopal. Alors, Barbara Couget, votre assistante, était déjà membre du Conseil épiscopal, mais elle est officiellement nommée. Et puis donc, une deuxième femme a été nommée.
Qui est une vierge consacrée, basquaise, puisqu'elle s'appelle Bernadette Michelena, donc qui est née sur la côte basque, bien sûr, à Urugne, je pense, et qui a quitté le diocèse pendant 40 ans pour ses activités professionnelles, missionnaires. Elle est devenue vierge consacrée dans le diocèse de Lyon, où elle a assumé beaucoup de responsabilités pastorales, beaucoup travaillé avec le cardinal Barbarin, mais elle était coordinatrice paroissiale, etc. Donc elle a une belle expérience. Et après une année de connaissance où elle est revenue dans son pays basque, où elle est quand même très insérée, hein, les bascophones, eh bien j'étais très heureux de l'accueillir dans le conseil épiscopal. Donc elle a demandé d'abord 4 mois d'essai, puis comme on est au pays du rugby, elle a transformé l'essai et elle a accepté donc d'être membre. Jusqu'à présent, Barbara participait comme secrétaire du conseil, qu'elle demeure, mais là aussi comme membre à part entière. Je pense que c'est important, en effet, ça a toujours été important pour moi, de manière assez informelle, ne serait-ce que, par exemple, quand on appelle un jeune aux ordres, ben, on ne se contente pas d'écouter les formateurs, même si c'est eux, S-Qualité, qui sont les plus concernés, les mieux placés, mais aussi dans les paroisses, les femmes avec qui elles travaillent, parce que le regard de la femme est différent du regard des hommes, et elles ont des intuitions, des choses que nous ne voyons pas. Et donc je pense que c'est vrai aussi pour la pastorale. Les curés le savent bien, moi je l'ai bien su quand j'étais curé moi-même. On est entouré de beaucoup de femmes, hein, dans nos services ou dans nos conseils, et c'est des regards croisés, complémentaires, parce qu'ils sont différents. Hein. Je milite moi pour une anthropologie où la femme et l'homme sont différenciés, en étant égaux de dignité. Et donc c'est bien que dans nos conseils, c'était déjà vrai dans le conseil du séminaire, il y a déjà une femme qui fait partie du conseil du séminaire, et qui intervient aussi auprès des séminaristes, et donc ben, d'avoir aussi déjà deux femmes qui participent habituellement au conseil, sans compter ceux qui participent, comme la responsable de la communication, de manière plus moins permanente, parce que bon, je comprends aussi que quand on est à la tête d'un service, on ne peut pas être tous les vendredis, ou même tous les 15 jours présent au conseil. Voilà.
Ça a donné une couleur différente depuis quelques mois, justement, l'arrivée de ces
femmes. Ça donne une couleur différente, mais on a l'impression que ça a toujours été comme ça, parce qu'il y a une ambiance de communion fraternelle. Chacun s'exprime comme il est, d'où il est, avec ce qu'il est. Et de fait, ça enrichit forcément, hein, nos échanges, et donc mes décisions.
Un grand merci à vous, Mgr Marcaillet, merci à Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous les auditeurs de Radio Présence Lourdes Pyrénées et de Radio La Pourdire. Tiens, une émission à retrouver sur le site internet du diocèse www.diocèse64.org.